Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est pour préparer la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi prévu pour demain. Au menu, évaluer les progrès et les problèmes dans la mise en œuvre de l'accord signé à Addis Abeba il y a 9 ans. Fin hier de la visite du président turc en RDC. Cet accord conclu entre la RDC et la Turquie, il porte notamment sur la sécurité, les infrastructures, la santé et le transport. Mais qu'est-ce qui garantit la concrétisation de ces accords? Le ministre des Transports rassure quant à ce, Chérubin Okende intervenait hier dans Dialogue entre Congolais de Radio Kapi. Et puis, Radio Kapi fête ses 20 ans d'existence. Dans ce cadre, nous recevons Marcelin Tshishambo, ancien gouverneur du Sud Kivu, mais surtout fidèle auditeur de Radio Kapi. Pour lui, il faudrait trouver un moyen de garder ce média après le départ de la MONUSCO. Madame, Messieurs, bonjour. Ouverture ce mardi à Kinshasa de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Cette réunion prépare la 10e réunion des hauts niveaux du mécanisme régional de suivi, réunion qui se tiendra demain, mercredi, à Kinshasa. Lors de ce rendez-vous, les dirigeants de la région des Grands Lacs vont évaluer les progrès et les problèmes dans la mise en œuvre de l'accord signé à Addis Abeba il y a 9 ans. Pour rappel, l'accord signé entre la RDC, tous ses voisins et des nombreux témoins internationaux pour ramener la paix et le développement dans la région a été signé en 2013. D'autres détails avec Donna Madimba Mbaya.
De son intitulé officiel Accord cadre de paix, sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs africains, l'accord beaucoup plus connu sous l'appellation d'accord cadre d'Addis Abeba, pour faire simple, est signé le 24 février 2013 en Éthiopie entre la RDC et 10 pays voisins, à savoir le Rwanda, l'Ouganda, la République centrafricaine, le Mozambique, l'Angola, le Burundi, le Congo-Brazzaville, le Soudan du Sud, la Zambie et la Tanzanie, deux États non voisins immédiats de la RDC, l'Afrique du Sud et le Kenya, et enfin quatre organisations témoins, à savoir l'ONU, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL. L'objectif global de cet accord est de mettre fin aux atrocités, à l'insécurité et à l'instabilité de la RDC et la région des Grands Lacs. Sur ce, la RDC elle-même s'engage globalement à restaurer la sécurité, l'autorité de l'État sur son territoire, mais aussi tout faire pour lancer son développement pour un mieux-être de ses populations. Les États voisins s'engagent aussi à ne participer ni encourager l'insécurité, l'instabilité ou les atrocités en République démocratique du Congo, ni dans les États proches ou dans la région. Et enfin, les témoins s'engagent, eux, à soutenir ces objectifs avec un accent particulier mis sur la RDC et les structures qui permettront aux objectifs d'être atteints de manière globale ou individuellement pour chaque signataire. Des structures comme le mécanisme général de suivi de cet accord, mais aussi les comités de suivi nationaux de cet accord dans chaque pays. Aujourd'hui, 9 ans après, les objectifs de départ restent globalement encore à atteindre. Le M23, groupe armé qui menaçait gravement la tranquillité des populations en RDC, a été neutralisé. Les mécanismes de suivi de l'accord cadre sont opérationnels dans un certain nombre de pays, dont la RDC, depuis quelques années. Mais les atrocités en RDC sont loin d'avoir pris fin, surtout à l'est du pays.
Pendant ce temps, en Ituri, près de 290 vaches ont été volées le dimanche par des éléments de la milice FPIC, Force Patriotique et Intégrationniste du Congo. C'était lors d'une incursion à Niara et Tchendabo, deux villages du territoire de Djougou, situés à 12 kilomètres du centre-ville de Bounia. Selon des sources sur place, ces hommes armés sont revenus hier matin pour commettre de nouvelles exactions, mais ils ont été repoussés par des militaires des FARDC. Ces attaques à répétition inquiètent les habitants de ces entités, dont plusieurs ont quitté la zone pour se mettre à l'abri. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
C'est à deux reprises que ces militias ont attaqué hier le village Niara, d'abord vers 8 heures locales, pour emporter 73 vaches, rapporte la société civile locale. Alertés, des militaires des FARDC sont vite intervenus pour chasser ces assaillants. Dans leur fuite, ils ont abandonné toutes ces bêtes volées. Celles-ci ont été restituées à leurs propriétaires, affirme notre source. Puis, peu après 13 heures, ces rebelles sont revenus en grand nombre, indiquent des témoins. Les soldats des FARDC sont répliqués pour les repousser, ce qui a plongé les habitants de Bounia dans la panique générale, car ces détonations d'armes se faisaient entendre dans plusieurs quartiers au chef-lieu de la province. Des maisons de commerce ont fermé leurs portes. Certaines personnes ont passé leur nuit au centre-ville avant de regagner leur domicile ce matin, rapportent des sources sur place. Mais une autorité coutumière jointe au téléphone déplore le vol de plus de 280 vaches par ces miliciens. Elle plaide pour le renforcement de l'effectif des soldats des FADC en vue de sécuriser la population et ses biens. Ce chef coutumier indique que c'est chaque semaine que ces hors-la-loi organisent des incursions dans cette zone. Bounia, Jean-Claude Lucky, d'Ile Radio Kapi.
Nord Kivu, deux incidents sécuritaires majeurs ont été enregistrés le week-end dernier et dans la nuit de dimanche à hier lundi dans le territoire de Nyiragongo. C'est dans les groupements Munigi et Mudja notamment. Ces incidents se sont soldés par la mort d'un policier. Les détails avec Denise Lukeso.
En premier lieu, dans les villages Kiheru, en groupement Munigi, un policier du sous-commissariat de la PNC de la chefferie de Bukumu a été tué par des criminels présumés hier dimanche vers 16h locales. La société civile territoriale renseigne que les porteurs d'armes à feu ont criblé plusieurs balles sur la victime sans forme de procès pendant qu'elle était chez elle pour effectuer des travaux de construction. L'OPJ Katembo Muindo, connu sous le nom de Rambo, est mort sur les champs, affirment nos sources. Pour le moment, le mobile de cet assassinat n'est pas connu. Notre source précise que ces malfrats ont lancé délibérément des grenades sur la foule spectatrice de la scène avant de s'enfuir sans faire des victimes. La police déclare avoir ouvert deux enquêtes. Le deuxième incident s'est passé dans le groupement Mudja. Les voleurs armés venus de Bougamba 2 ont tenté de cambrioler une habitation. Alertée, la population est intervenue et a mis la main sur un des voleurs qui serait un élément de la PNC du sous-siat de Bougamba. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Et puis, ce transfèrement le week-end à l'auditorat militaire de garnison de Beni de l'officier supérieur des FARDC chargé de convoyer des renforts de l'armée du Nord Kivu vers l'Ituri et qui serait à la base de l'incident mortel lundi passé à Luna. Ce jour-là, 5 personnes, dont un policier, ont été tuées par balle par des soldats FARDC faisant partie de son convoi. Luna est à la limite de ces deux provinces. Martial Papi Mukeba, reportage.
L'officier supérieur des FARDC qui porte les grades de lieutenant-colonel est de la 34e région militaire des FARDC. Il avait été interpellé à Luna, à la limite des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, alors qu'il convoyait des troupes pour la province de l'Ituri dans le cadre des opérations contre les groupes armés. L'officier, transféré ce samedi à l'auditorat militaire des garnisons de Beni, est accusé d'être à l'origine des tirs mortels survenus il y a une semaine à Luna. On se rappelle qu'une incompréhension survenue entre cet officier et les agents commis au poste de contrôle de Luna avait été à la base des tirs à balles réelles qui ont fait 5 morts, notamment 4 civils et un policier tué, lui, à bout portant. Selon des sources sécuritaires, les tirs venaient du véhicule à bord duquel s'est trouvé l'officier. La justice militaire cherche ainsi à établir sa responsabilité dans cet incident. Signalons que le militaire FARDC qui a tiré à bout portant sur les policiers vient d'être également arrêté. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, Recep Erdogan, le président turc, a quitté la RDC hier après une visite de travail de 24 heures. Au cours de cette visite, 7 accords ont été conclus entre les gouvernements congolais et turc. Ces accords portent notamment sur la sécurité, les infrastructures, la santé et le transport. Au cours du magazine Dialogue entre Congolais de Radio Kapi hier, il a été justement question de ces accords. Le ministre des Transports, qui était l'un des intervenants de cette émission, a précisé qu'en ce qui concerne son secteur, ces accords permettront la modernisation des infrastructures de transport. Il évoque notamment le port au niveau du tronçon Banana Matadi, la route Kinshasa Matadi qui doit être modernisée, ainsi que la réhabilitation du chemin de fer Kinshasa Matadi. À la question de savoir qu'est-ce qui peut garantir la concrétisation de ces accords, Chérubin Okende soutient que l'engagement réciproque entre les Turcs et les Congolais pousse à croire que ces accords se matérialiseront. On écoute le ministre des Transports dans cet extrait choisi par Guy Matetsongo.
Nous n'avons plus cet entichement à des signatures qui ne donnent pas de résultats, mais est-il qu'il faut y croire? Si vous ne s'aimez pas aujourd'hui, il ne faudra pas que vous vous entendiez à récolter demain. Donc nous allons poursuivre, mais de manière à nous mettre également au diapason de ces défis qui sont les nôtres et y mettre aussi du sérieux, assurer le suivi qui s'impose. Vous comprendrez que nos partenaires stratégiques aujourd'hui, ils ne viennent pas pour de la villégiature. Ils viennent aussi pour investir et rentrer dans leurs investissements, et c'est ce qui pourra garantir l'engagement mutuel, l'engagement réciproque et de nous-mêmes et de nos partenaires. Donc, je comprends tout à fait les compatriotes qui émettent de réserves, parce qu'en fait, on a signé, il faudra arriver à la matérialisation de tout cela. Nous en sommes très conscients, et cela, le chef de l'État ne cesse de nous le répéter chaque fois, que nous devons mettre de notre côté tout le sérieux possible pour aboutir à des accords qui soient bénéfiques pour le peuple congolais.
Santé, lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose, la RDC parmi les 5 pays africains choisis pour co-préparer du 23 au 24 février par visioconférence la 7e reconstitution du Fonds mondial pour la période 2023-2024, information livrée à Kinshasa par la plateforme des organisations de la société civile congolaise engagée dans le plaidoyer en faveur de ce fonds. Les autres pays du continent sont le Kenya, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Rwanda. Selon Maxime Lungo, coordonnateur national des Amis de Damien et de Stop Tuberculose, le Fonds mondial est le plus grand partenaire de la République démocratique du Congo dans la lutte contre ces maladies avec des retombées positives. Les propos de Maxime Lungo recueillis par Honoré Misenga Kalala.
Alors les retombées, oui, il faut parler en termes d'augmentation des vies sauvées. Le VIH n'est plus vraiment un problème. Il y a même les tests volontaires qui se font. D'ailleurs, avant, c'était vraiment des tests obligatoires. Après, c'était des tests conseillés. Mais aujourd'hui, les tests VIH, c'est volontaire. Et même pour la tuberculose, la stigmatisation diminue. Le Fonds mondial, il est un grand partenaire. Par exemple, en ce qui concerne la prise en charge de la tuberculose, le Fonds mondial contribue à la hauteur de 75% des médicaments antituberculés en RDC. Alors que nous avons en moyenne, par an, plus de 20 000 malades de la tuberculose en moyenne par an. Vous comprenez que si nous, société civile, nous nous mettons debout pour soutenir les efforts du Fonds mondial, parce qu'il y a beaucoup de vies qui sont sauvées, que ce soit pour la tuberculose, le paludisme et même pour le VIH-Sida.
D'après la même source, la RDC avait contribué une grande première jusqu'à 6 millions de dollars américains à la 6e reconstitution du Fonds mondial pour la période 2021-2023. La société civile congolaise s'en félicite et encourage le gouvernement congolais à contribuer davantage. Le programme des travaux prévoit d'ailleurs une prise de parole du président Félix-Antoine Tshisekedi aux travaux préparatoires de la 7e reconstitution. Direction la province de la Tshopo. 51 prisonniers se sont évadés du centre de détention d'Osio, situé à 17 km au sud-ouest de Kisangani. Cela s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche vers 3h du matin. Une commission mixte composée de la division provinciale de la justice et garde des Sceaux, de la police nationale congolaise et des forces armées de la RDC s'est rendue sur les lieux hier en vue de s'enquérir des circonstances de cette évasion. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Les évadés ont profité d'une forte pluie qui s'est abattue dans cette région pour creuser un trou dans le mur pour s'échapper. Sur les 118 pensionnaires de cet établissement carcéral, 51 ont pris le large, laissant derrière eux 67 autres. Selon le chef de la division provinciale de la justice et garde des Sceaux, Gérard Kombo-Zibolema, les fugitifs sont des condamnés à des sanctions allant de la peine capitale à 5 ans de prison. La plupart l'ont été pour meurtre, association de malfaiteurs ou pour vol à main armée. Hormis Kisangani, certains d'entre eux étaient venus de Bounia, d'autres d'Isiro ou encore de Bouta. La même source rapporte qu'un policier et un militaire des gardes ont été interpellés par la commission puisque les trous creusés par les fugitifs se trouvent à 10 mètres de leur poste. Ils seront entendus sur procès verbal. Afin d'éviter d'autres évasions, la brèche a été colmatée et la sécurité renforcée. Quoi qu'il en soit, les Boyomés redoutent la recrudescence de l'insécurité dans la ville et ses environs si ces évadés ne sont pas repris par les forces de l'ordre. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
20 ans de Radio Okapi. Outre les acteurs socio-économiques et politiques dont on a déjà parlé, les artistes de Goma, toutes catégories confondues, figurent parmi les gens de métier qui s'estiment avoir été bien servis par la Radio Okapi ces 20 dernières années. Les uns et les autres mettent en avant une valeur du média humanitaire, à savoir la promotion des artistes gratuitement. C'est comme le met en exergue ce reportage de Jules Ngala depuis Goma.
Pendant très longtemps, Lil Bip Piano, artiste musicien à Goma, a pensé que Radio Okapi était tellement grande que communiquer à travers elle n'était réservé qu'aux artistes célèbres, donc riches. Un jour, il vient frapper à la porte de Radio Okapi. Il n'en revient pas, comme il le raconte lui-même.
J'avais l'impression qu'il y aurait peut-être des frais qui me seront exigés pour passer je ne sais pas quoi. Mais en arrivant à la radio, bon, j'ai été reçu et mes chansons ont été jouées. Je suis reconnaissant de ça.
Poète Bukasa, écrivain connu à Goma, lui était un habitué de Radio Okapi. Il est célèbre bien sûr, mais c'est Radio Okapi qui a fait qu'il en soit ainsi, reconnaît-il.
Nous, il suffit de produire un élément et ça passe directement sur Radio Okapi. Je me suis dit, tiens, ici il y a du professionnalisme. Donc, bravo pour ce professionnalisme.
Ils sont nombreux comme ça à Goma, les artistes de tout genre qui sont unanimes à remercier Radio Okapi pour avoir fait leur promotion et gratuitement ces 20 dernières années. Goma, Jules Ngalawa Mona, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
La nouvelle charte de la transition au Mali a été adoptée à l'unanimité hier par les membres du Conseil national de transition qui fait office d'organe législatif provisoire dans le pays. Cette charte présente plusieurs nouveautés, soit le nombre de parlementaires désignés et non élus qui passe de 121 à 147. Concernant la durée de la transition, il est écrit dans le texte que l'élection présidentielle prochaine, dont la date n'est pas encore connue, va marquer la fin de la transition.
L'invité.
20 ans de célébration de la radio Okapi. Ce matin, nous recevons Marcelin Tshishambo, ancien gouverneur du Sud Kivu, mais surtout fidèle auditeur de Radio Okapi. Selon lui, il faudrait trouver un moyen de garder ce média après le départ de la MONUSCO. Cela au regard de tous les services rendus par cette radio à la presse congolaise. Marcelin Tshishambo s'entretient avec Cynthia Bachizi.
Marcelin Tshishambo, bonjour.
Bonjour Madame Cynthia Bachizi.
Que faisiez-vous en février 2002?
En février 2002, j'étais à Bruxelles en train de préparer mon retour au Congo où on venait de terminer une réunion de la composante société civile à Bruxelles et on préparait les négociations de Sun City. C'était l'organisation du voyage sur Sun City.
Alors racontez-nous, la première fois que vous aviez écouté la radio Okapi, c'était quelle émission et quelle a été votre impression?
La première fois, c'était de retour de Sun City après les négociations que j'ai écouté la radio Okapi. Et l'émission, c'était Parole aux auditeurs qui m'intéressait.
Qu'est-ce que vous a fasciné? Qu'est-ce que vous a plu dans Parole aux auditeurs?
C'était l'occasion pour les Congolais de discuter. Ça ne faisait pas longtemps qu'ils étaient redevenus Congolais. Et à l'époque du Zaïre, des émissions comme ça, ça n'existait pas. Je me demande même parfois si ce n'était pas la première fois que ça se faisait au Congo. Mais il y avait l'équivalent de cette émission sur RFI. Et donc ça me faisait bien de voir que Radio Okapi pouvait fonctionner de la même façon qu'RFI.
20 ans de la radio Okapi, quel moment de la radio vous a le plus marqué, bouleversé ou ému?
C'est surtout malheureusement les assassinats de deux journalistes. Ça m'avait choqué. Des gens qui se consacraient à la presse. La liberté de la presse est un facteur très très important pour ceux qui croient dans la démocratie. Je connaissais Serge, je connaissais l'autre Didas et ça m'a gêné très fort de voir que on pouvait se faire tuer. Finalement, j'ai toujours pensé que c'était pour son opinion. Ce n'était pas qu'on courait derrière les richesses de ces deux journalistes, mais c'était des gens qui ne croyaient pas dans la liberté de la presse, je crois.
Et vous pensez qu'en 20 ans, le journaliste aujourd'hui travaille maintenant dans des conditions sereines où il peut s'estimer être en sécurité?
Oui, je crois qu'ils sont plus sécurisés maintenant qu'avant. Et j'ai suivi avec attention la dernière réunion, grande réunion, pendant 3 jours de la presse du Congo. Je crois que le combat de la presse ne peut pas estimer qu'on est arrivé au bout. Vous voyez, il y a encore la semaine passée, on a tué une journaliste au Mexique. Et la liberté de la presse, moi j'y crois.
Aujourd'hui, que représente pour vous Radio Okapi?
C'est une radio utile, puisque quelque part, ça fait un peu point de repère quand on a tendance à aller loin par rapport à l'idéal du journaliste, je crois que ça arrive qu'on revienne sur la radio Okapi. Et en observant plutôt les images de la dernière réunion des journalistes à Kinshasa, j'ai reconnu quelques têtes de journalistes de la radio Okapi. Et je me suis dit, bon, donc radio Okapi risque d'être éternelle même si la MONUSCO partait.
Justement, la MONUSCO est en train de préparer son départ. Il y a une transition qui a commencé. Est-ce que vous pensez que la radio doit rester après le départ de la MONUSCO? Il faut pérenniser cet acquis?
Moi, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Hein. Le peu qu'on connaisse de nos petites relations internationales, on discute de la prorogation du mandat. Donc, vous voyez, il n'y a pas que du négatif avec la MONUSCO, malgré tout ce que les gens disent. Il n'y a pas que du négatif. Il faut une remise en question perpétuelle, même pour les journalistes.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la radio Okapi fait partie de l'histoire congolaise?
Oui, bien sûr. Faire semblant de l'ignorer, ça ne serait pas sérieux. Et j'insiste, même si la MONUSCO devait partir un jour, on devrait trouver le moyen de garder la radio Okapi. Les formes, c'est à vous les journalistes d'en discuter. Moi, je n'ai jamais été journaliste, j'ai fréquenté les journalistes, je les fréquente encore. Mais c'est à vous de savoir comment vous pouvez transformer tout ça. Mais le soutien des radios Okapi à la presse congolaise, en tout cas la presse du nord, du sud Kivu et de l'Ituri, on ne peut pas y revenir, c'est tellement évident que demander aux journalistes qui ne sont pas de Radio Okapi, mais qui sont dans les radios locales ou qui sont même maintenant dans les médias en ligne, vous verrez que bon, la MONUSCO a quand même, à travers la Radio Okapi, rendu des services à la presse congolaise.
Marcelin Tichambo, je vous remercie.
C'est moi qui te remercie, Cynthia Bachizi.
Notre invité, Marcelin Tichambo, ancien gouverneur du Sud Kivu, mais surtout fidèle auditeur de Radio Okapi, était avec Cynthia Bachizi. C'est la fin de ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo. Merci de nous avoir suivis.